monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge avec vous. Le 16 novembre 2024, les Gabonais ont approuvé à plus de 90% la nouvelle constitution proposée par le régime militaire du général Brice Oligui Nguema. Les 173 articles de la nouvelle loi fondamentale sont issus de discussions du dialogue national. Elle consacre un mandat de président de 7 ans renouvelable une seule fois avec un régime présidentiel doté d'un pouvoir exécutif fort sans premier ministre. Certaines dispositions ne pourront faire l'objet de révisions. Parmi les nouvelles dispositions, le service militaire est devenu obligatoire pour hommes et femmes. Plusieurs pays ont instauré le service militaire obligatoire également pour les femmes, notamment la Norvège, dans le cadre de sa politique d'égalité des genres, Israël, la Corée du Nord et l'Érythrée. Un autre article de la nouvelle constitution gabonaise précise que l'État garantit l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ainsi qu'aux responsabilités politiques et professionnelles. Lors d'un entretien avant le référendum avec le président du Conseil économique et social, Séraphin Mundunga, je lui ai demandé si cette disposition sera accompagnée d'autres dispositifs ou instruments légaux consacrant des mesures contraignantes en ce qui concerne notamment l'équilibre des genres aux fonctions nominatives.
Oui, bien sûr, lorsque le projet de constitution dans ses futures dispositions indique que l'État garantit l'égal accès de l'homme et de la femme aux fonctions électives, mais ajoute également en matière également de responsabilités politiques et professionnelles. Et les responsabilités politiques et professionnelles, ça signifie que l'aspect genre doit être pris en compte, aussi bien en ce qui concerne la haute administration que bien sûr le monde de l'entreprise, et particulièrement les entreprises où l'État a une forte influence parce que l'État participerait au capital de telle ou de telle entreprise publique ou parapublique. Par ailleurs, cette disposition constitutionnelle doit faire l'objet d'une mise en œuvre à travers les lois d'application et les décrets d'application. Il s'agit ici pour le moment de déterminer un cadre général, sans faire une sorte de loi cadre pour le moment. Les applications vont venir au fur et à mesure des différents processus post-référendaires.
La nouvelle loi fondamentale du Gabon reconnaît le français comme langue officielle de travail et implique des initiatives pour soutenir les langues locales. Selon Séraphin Mundunga, il est important de promouvoir la pratique des langues locales.
C'est un point qui nous importe en particulier parce que dans un passé lointain, j'ai été ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Et dans ce cadre, j'ai organisé et présidé les États généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche. Et en la matière, les principales recommandations qui ont abouti à une loi d'orientation ont fait en sorte que les aspects culturels liés à la langue nationale puissent avoir une place centrale au sein du système éducatif gabonais, du système de recherche scientifique. Et bien sûr, parce que sans langue locale, il n'y a pas la possibilité de promouvoir la culture de tel ou de tel pays, de telle ou de telle communauté.
C'était Séraphin Mundunga, président du Conseil économique, social et environnemental au Gabon. Lors de la présidentielle américaine du 5 novembre 2024, les électeurs ont également voté pour leurs représentants, sénateurs et gouverneurs. La proportion de femmes au Congrès a chuté de 28,2 à 28%, ce qui ramène les États-Unis de la 75e à la 81e place mondiale en termes de pourcentage de femmes occupant des fonctions électives. Au Sénat américain, elles ne sont toujours pas plus que 25 sur 100 sénateurs, soit 25%. De même qu'aux États-Unis, seulement 26% des femmes sont gouverneurs, malgré une légère progression cette année. J'ai demandé à la consultante en genre congolaise Anima Tundu si, selon elle, le facteur genre a influencé les électeurs américains après l'échec de Kamala Harris, la deuxième femme à échouer à la présidentielle face à Donald Trump après Hillary Clinton.
Traditionnellement, les femmes ont tendance à voter davantage pour les démocrates, tandis que les hommes préfèrent les républicains. Cette tendance s'est confirmée lors de l'élection présidentielle de 2024, où Donald Trump a remporté une large majorité de votes masculins, tandis que Kamala Harris a reçu un soutien significatif de l'électorat féminin. Nous pouvons dire aussi que la division genrée des intentions de vote a été particulièrement marquée cette année avec des hommes préoccupés par des questions comme les raisons de leur pouvoir d'achat, tandis que les femmes étaient davantage mobilisées par des enjeux comme les droits reproductifs et la violence sexuelle.
L'écrivaine Nelly Banzé-Kanteng de Lubumbashi, quant à elle, ne voit pas de sexisme ou de préférence masculine dans le choix des électeurs américains à la présidentielle 2024.
Ce n'est pas une question de préjugés ou de genre qui a fait que Kamala Harris ait tuté aux élections. Je pense que les Américains sont bien au-dessus de tout ça. Et s'ils en sont encore là, c'est vraiment dommage de voir que la grande puissance mondiale puisse se réduire à ce niveau-là du genre. Les femmes aux États-Unis, on les trouve pratiquement dans beaucoup d'institutions où elles se démarquent.
La cantatrice gabonaise Adriana Bignani estime pour sa part que la question du vote féminin n'est que le reflet du manque de solidarité féminine en général.
Le souci est que souvent, je ne vais pas incriminer les femmes, mais cela dit, le patriarcat est toujours en place tout simplement parce que souvent la majorité, une grande partie de femmes ne soutiennent pas suffisamment les autres femmes. Donc d'où vient souvent ce genre de problème? En tout cas, ce n'est que mon avis, je peux me tromper. Moi, je vois surtout en Afrique où souvent on peut interdire certaines choses à certaines femmes sur la liberté parce que d'autres n'en ont pas. Du coup, on empêche beaucoup ce qu'il n'y a pas chez les hommes où il y a quand même cette forme de solidarité masculine. D'où j'avais espoir, moi, qu'une femme puisse être élue, qui aurait donné davantage d'exemples et de force pour les femmes. Certes, ça ne change rien à ma vie, mais c'était un espoir que j'avais pour le combat de demain, la voix des femmes. Voilà.
Nous avons continué la discussion avec Adriana Bignani-Lesca, chanteuse lyrique franco-gabonaise qui se produit dans les capitales du monde entier. Quittons la politique pour parler art et plus précisément de ce qui est nécessaire à l'artiste pour qu'il puisse s'épanouir et développer son art tout en participant au développement socio-économique de son pays. Adriana Bignani.
Déjà, pour contribuer à la création artistique, il faut des structures pour pouvoir permettre aux artistes de créer sous forme de résidence pour pouvoir faire la création artistique. Sous forme de séances de travail où il y a une période donnée à la création et à la survie des artistes, c'est que non seulement pareil, il faut des structures, mais également il faut des mécènes et si possible l'État qui puisse accompagner. En général, on n'aime pas trop que l'État se mêle de ça parce qu'ils sont toujours en train de bouffer le budget de la survie des artistes. Et donc pour ça, il faut des mécènes et des gens volontaires pour pouvoir justement soutenir les artistes. Les artistes africains sont-ils rémunérés ou reconnus à leur juste valeur? On dira tout simplement que non, parce que les artistes africains qui puisaient, moi je parle d'abord par rapport au Gabon, Je ne pense pas qu'un artiste gabonais puisse vivre complètement de son art, et chose bien triste, et reconnu à sa juste valeur. Pour qu'il soit reconnu à sa juste valeur, il faudrait qu'il y ait toujours, et je reviendrai toujours là-dessus, les structures mises en place et les droits des artistes aussi mis en place de façon à protéger leurs œuvres et à publier également leurs œuvres et à faire en sorte aussi que les artistes puissent faire des concerts dans des endroits accueillants pour artistes ainsi que faire des tournées, avoir aussi un certain nombre de producteurs, pas seulement qu'un seul producteur, il faut qu'il y ait une diversité pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Après, à leur juste valeur, donc il y a tout ça, le côté média, après il faut des budgets. Promouvoir l'art africain, comme je disais encore une fois et toujours, le problème c'est que même s'il y a des associations, des œuvres caritatives, pas mal de choses qui mettent en place pour pouvoir promouvoir l'art africain, il faut encore une fois des structures pour pouvoir accueillir cet art africain de manière à ce que ce soit international, de façon à ce que tous les artistes du monde entier viennent à un point donné, qui plus est par exemple pour le Gabon, viennent à un endroit spécifique parce que ce sera un festival pour pouvoir promouvoir l'artiste. Il n'y a que de cette façon-là, il faut un lieu spécifique, il faut un endroit spécifique. Et pour ça, il faut les structures, tantôt pour les écoles comme un conservatoire, tantôt pour les salles de spectacle spécifiques, soit pour les chanteurs, il faut des endroits spécifiques, des musées, des salles pour pouvoir accueillir justement des expositions d'artistes, que ce soit les tableaux ou autres. Donc de toute manière, il faut toujours des structures et il en manque cruellement en Afrique des structures dédiées pour l'artistique africain. L'impact de leur travail au plan national, continental et international. L'impact, ça c'est un peu subjectif, c'est selon l'artiste aussi, parce que ça on ne peut pas vraiment savoir quel est l'impact de leur travail. Pour connaître ça, il faut encore une fois mettre en œuvre, que ce soit les structures au niveau média aussi qui s'y intéressent spécialement pour les artistes pour pouvoir promouvoir. Et là, on pourra savoir exactement quel est l'impact d'un artiste. Et tout simplement, l'impact d'un artiste peut être dans différents domaines, sur la sensibilisation de plusieurs choses, comme la prévention contre le sida, prévention pour parler de problèmes de cancer du sein, prévention sur beaucoup de choses. L'artiste peut être utilisé pour ce genre de choses, pour sensibiliser les jeunes qui suivent justement cet artiste-là en se disant « Ok, moi j'ai l'habitude de faire ça, je le fais, alors suivez-moi ». Voilà l'impact que ça peut créer, en tout cas dans ce côté-là, pas forcément côté politique, parce que à chaque fois que les artistes se sont toujours impliqués dans le côté politique, il y a toujours eu un côté néfaste sur leur carrière et du coup ce n'est plus totalement subjectif. Et pourtant, l'artiste a le droit de s'exprimer en choisissant son parti, mais le problème en est que l'impact ne peut se limiter pour pouvoir faire grandir et pouvoir aussi créer des vocations, aider à créer des vocations, impacter toute la population sur l'avancée du pays et le développement du pays. Quelle est la contribution de l'artiste au développement économique sur plein de choses, sur tous les domaines? En tant qu'artiste, déjà il y a la possibilité de faire en sorte qu'il y ait un travail régulier, donc déjà au niveau économique ça fait en sorte qu'on n'ait pas trop de chômeurs et ça engage aussi pas mal de choses. Je prends un exemple me concernant, lorsque j'ai un concert ou une production, ça fait en sorte qu'on puisse engager des techniciens, des maquilleurs, des coiffeurs, des techniciens spécialisés
dans la décoration du spectacle. Et ensuite, il y a tout le côté costume et ainsi que la salle, l'ouverture des salles. Donc, il faut des hôtesses d'accueil, il faut au niveau de la direction, le manager. Tout ça, ce sont des gens, en fait, qui vivent aussi à travers l'artiste, qui peuvent justement se servir à travers l'artiste. Et qui plus est encore, il y a d'autres artistes qui ont encore d'autres artistes qui les accompagnent, c'est-à-dire l'orchestre, tout ça. Ce sont des gens, justement, qui favorisent l'économie. Parce que plus quelque chose est mis en valeur, plus l'économie rentre en marche et plus ça contribue à l'économie du pays.
C'était une réflexion de la cantatrice gabonaise Adriana Bignani sur la place de l'artiste dans la société.
Parole de femme.
La lutte pour les droits des filles dans le monde progresse à petits pas grâce à la mise en place de lois et dispositifs législatifs censés les protéger. Mais la justice n'est pas toujours au rendez-vous et les pesanteurs socioculturelles prennent souvent le dessus. La juriste tchadienne Thérèse Mekombé dresse un plan de la condition de nombreuses filles encore confrontées au regard de la société et parfois même privées de leurs droits les plus élémentaires.
Jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle, beaucoup de filles continuent à avoir la pression des parents, rencontrer des obstacles sur leur chemin d'éducation. Je dirais que dans beaucoup de nos contrées, les filles dans les périphéries, dans les zones rurales, les parents n'acceptent pas que ces filles-là dépassent le cap du CEP pour aller au secondaire parce qu'il n'y a pas de collège, il n'y a pas de lycée dans leur localité. Et la fille doit aller peut-être chez un parent dans une autre localité pour pouvoir continuer ses études. Là déjà, le problème se pose parce que beaucoup de parents refusent que la fille soit éloignée d'eux. Ils estiment que les grandes villes, il y a trop de risques. Le deuxième problème, c'est que, comme nous avons l'habitude de le dire, la fille a toutes les charges ménagères qui pèsent sur ses épaules. Et là aussi, elle n'a pas le temps matériel pour pouvoir s'adonner à ses études. Et c'est ce qui fait que beaucoup de filles régressent dans la scolarisation et finissent dans les mariages précoces. Et je pourrais faire un petit rappel par rapport à l'année 2011 parce que c'est l'année à laquelle on a constaté que dans beaucoup de nos pays, le constat est fait selon lequel beaucoup de jeunes filles sont envoyées très tôt en mariage et cela est un obstacle à leur scolarisation. Un obstacle également pour qu'elles puissent continuer les études secondaires et supérieures. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup de pays également ont adopté des lois interdisant le mariage des enfants pour permettre à ces filles-là de continuer leur scolarité. Les lois sont ce qu'elles sont. Le respect demeure également un défi parce que malgré que la loi a été adoptée, nous constatons que beaucoup de filles ont eu le courage, mais la force, l'intelligence nécessaire de continuer au niveau secondaire. Les parents décident de les envoyer encore en mariage. Et donc, il y a assez de défis pour que les droits de la fille soient respectés. Au-delà des textes, au-delà des mesures, au-delà des stratégies, je pense qu'il faut revoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire exactement pour que les droits de la fille soient respectés. Nous savons que, en termes de droit, le plus souvent, nos communautés pensent que la femme, mais la fille, n'a pas de droit. C'est ça qui fait que les droits de la fille sont quelquefois bafoués. On ne prend pas en compte les besoins de la fille en matière de santé sexuelle et reproductive également. Les filles n'ont pas accès aux services de santé et de reproduction parce qu'il y a également la culture, la pratique culturelle qui pèse sur elles. Quand une fille va vers ces services-là pour demander des conseils, automatiquement, même au niveau des agents de santé, on essaie de pointer cette fille-là de l'énergie en disant que déjà une fille qui veut savoir connaître les droits à la sexualité. Donc, il y a la société également qui n'aide pas ces filles-là à connaître leurs droits en matière de santé. Nous devons revoir encore la stratégie d'aider les filles, mais d'accompagner les filles, de soutenir les filles afin que le droit de la fille devienne une réalité. Mais cela passe par la lutte contre les normes sociales discriminatoires. Ça passe également par l'éducation, la sensibilisation des communautés et des parents. Cela passe également par la prise de conscience des filles elles-mêmes. Parce que c'est vrai, nous avons nos pratiques culturelles. Mais quand la fille est éduquée, la fille est scolarisée, la fille est sensibilisée, elle peut déjà elle-même se défendre. Et cette défense, elle peut le faire également avec l'aide des associations de défense des droits de la femme et des droits de l'homme. Et elle peut également, entre elles-mêmes, en s'organisant, en association, en s'organisant en groupe de plaidoyer pour faire en sorte que le droit soit respecté et remonter tout cela au niveau État pour que, au-delà des textes, des sanctions soient prises. Par exemple, chez nous, le code pénal qui sanctionne les parents qui refusent sciemment d'envoyer les filles à l'école. Si ces parents sont identifiés, il faudrait que les sanctions soient appliquées à la mesure de ce qui est prévu. C'est tous ces ensembles amis qui permettront que les droits de la fille deviennent une réalité, mais pas que faire des discours, faire des déclarations pour les droits de la fille. Ça doit être une lutte quotidienne, ça doit être une réflexion qui doit être menée quotidiennement. Et chaque évaluation permettrait maintenant de chercher des solutions au respect des droits de la fille.
C'était Thérèse Mekombé, présidente de l'Association des femmes juristes du Tchad.
Si jeunesse pouvait...
Le Bénin a renforcé en 2021 son arsenal juridique sur la santé sexuelle et reproductive afin de réduire les décès maternels à travers l'avortement médicalisé, de promouvoir la planification familiale et de permettre l'accès des jeunes aux informations sur la santé sexuelle. Toutefois, l'ambition du gouvernement se heurte encore aux pesanteurs socio-culturelles. Un reportage de Ginette Fleuradandé à Cotonou.
Même la loi sur l'embauche n'a pas autant nourri les débats que celle sur les droits à la santé sexuelle et reproductive. Les réfractaires pointent du doigt l'assouplissement des conditions d'accès à l'interruption volontaire de grossesse.
Avorter un embryon ou un fœtus, c'est empêcher son développement normal, surtout si vous le faites consciemment.
S'il arrivait que je me retrouve dans un cas pareil, j'en assume la responsabilité parce que je suis chrétien, donc ma foi ne m'autorise pas à faire une chose pareille.
Le gouvernement qui défend ce nouveau test trouve qu'il est jugé un peu trop hâtivement.
Cette étape du développement qu'est l'adolescence est marquée entre autres par la précocité des rapports sexuels, la précocité des grossesses non désirées et les complications des avortements provoqués. Un décès sur 5 survient chez les adolescentes avec une fécondité assez élevée pour cette couche. À cela s'ajoute la prolifération des IST, VIH, SIDA.
Mais il n'y a pas que l'IVG qui est mise à mal. Le fait que l'information sur la sexualité soit mise à la portée des jeunes aussi dérange. Les jeunes filles parlent ici des obstacles qui les empêchent de recourir aux services de santé sexuelle et reproductive.
Non, les filles, y compris moi, on ne discute pas de santé reproductive sexuelle avec nos parents. Ils n'aiment pas nous en parler. Ils disent que ça ne nous concerne pas. Les parents veulent avoir toujours leur mot a dit. Cette situation ne nous permet pas d'être autonomes, de dire ce qu'on pense véritablement à l'intérieur de nous.
Pour accompagner le gouvernement et contourner les difficultés des partenaires comme l'UNFPA, Plan Bénin et des associations de la société, des professionnels de santé innovent avec une application dénommée Elle qui s'adresse aux filles et aux garçons.
Nous nous sommes demandé à notre échelle en tant que regroupement de professionnels de santé, que pouvons-nous faire pour briser les tabou. Et c'est la réponse à cette question que nous donnons à travers l'application Elle qui permet aux filles et femmes d'avoir l'information fiable sur leur santé et bien-être et d'être orientées vers des professionnels de santé en cas de besoin. Les hommes également ayant leur place à travers une interface homme dédiée sur l'application.
Développée par Dr. Viviane Oké, doctorante en médecine et membre de la communauté Women in Tech, cette application, selon son développeur, entend offrir aux jeunes filles et femmes le soutien nécessaire.
Le choix du digital parce qu'il permet de donner le pouvoir aux femmes sans subir la crainte des regards et de la stigmatisation de nos sociétés qui est quand même importante. Deuxièmement, parce que l'impact et la portée du digital est beaucoup plus grande que celle que nous pourrions faire avec des actions physiques.
Aujourd'hui, ils sont nombreux à militer pour faire connaître et faire évoluer davantage le cadre réglementaire et institutionnel régissant les droits à la santé sexuelle des adolescents qui souffrent du silence qui enveloppe les questions sexuelles à l'âge de la puberté. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.
Chères auditrices, chers auditeurs, c'est ici que se referme le monde au féminin. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.